Bonsoir, nous allons commencer la troisième intervention. Si vous voulez bien, comme d'habitude, on va demander à Notre-Dame de la Roche de venir dans nos cœurs, de prier pour nous, pour que nous puissions ouvrir nos cœurs à l'amour de Dieu, à l'amour du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Petit rappel pour ceux qui ne sont pas encore venus. Première rencontre, on a vu le projet de Dieu pour chacun de nous. Cet amour immense de Dieu sur nous, pour nous, et cette communion d'amour qu'il y a dans la Trinité, Dieu a voulu le partager avec nous, a voulu nous faire rentrer dans cette communion d'amour, et uniquement par amour et pour l'amour. Il n'avait pas besoin de nous, il n'avait pas besoin de Marie-Gabrielle, il n'avait pas besoin d'Emmanuel, et pourtant, et il s'est dit, eh bien, faisons l'homme à notre image, pour qu'il puisse rentrer dans cette communion d'amour. Vous vous rappelez, dès la création de l'homme et de la femme, il y a l'intention, on sent l'intention créatrice de Dieu. On comprend pourquoi Dieu nous a créés dès l'origine pour nous unir à lui dans la vie éternelle. Donc en fait, c'est par amour pour l'amour. Vous vous souvenez de ça? Mais nous, on s'est dit, c'est bien gentil tout ça, il y a sûrement un bug, il y a sûrement une attrape nigo là-dedans. Nous, on sait mieux que Dieu ce qui est bien pour nous. Et donc, on a voulu être comme des dieux. C'est-à-dire qu'on a douté de l'amour de Dieu, l'amour infini de Dieu pour nous. On a douté de cet amour. Conséquence, on ne peut plus se recevoir comme un don. On ne peut plus recevoir l'autre comme un don. On n'arrive plus même à se voir les uns les autres comme des dons que Dieu nous confie. Alors on a un regard qui est abîmé, qui est falsifié. Vous vous rappelez de ça? Domination, d'accord? Et heureusement, parce que c'était quand même un peu pénible la dernière fois, c'était un peu... Voilà, on est rentré un peu dans nos noirceurs. Et heureusement, on a cette espérance du Christ... qui vient nous restaurer. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu a toujours son plan pour nous. Dieu veut toujours cette union, cette communion d'amour avec nous. Il la désire toujours. Et malgré notre faiblesse, malgré nos limites, malgré notre orgueil, malgré le doute de notre amour pour lui, eh bien, il vient nous restaurer par son Fils qui vient prendre notre condition d'homme. Il vient restaurer... l'homme dans sa masculinité et dans sa féminité. Il vient nous restaurer jusqu'au cœur de notre cœur et au cœur de notre corps. Et on en était là, et on va voir la suite aujourd'hui, une fois que le Christ... C'est demain le début de l'incarnation quand même, hein, le 25 mars. Ça y est, on va pouvoir être sauvés à partir de demain, d'accord? Parce que le Christ sera... l'Annonciation annonce l'incarnation, c'est l'incarnation, annonce Noël. D'accord ? Annonce tout ce qui va se passer derrière. Et donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Demain, c'est une grande fête. Et on va voir un petit peu ce que ça, ce que le Christ vient nous redire toujours à travers la Bible. Hein. Tout cet enseignement que nous travaillons ensemble, hein, on se base sur la Bible éclairée par le magistère. D'accord ? C'est vraiment basé sur la parole de Dieu, éclairée par le magistère, particulièrement par Saint Jean-Paul II. D'accord ? Ça va ? Pour ceux qui n'étaient pas là, comme ça, vous êtes repartis dans la barque.
Donc maintenant, nous sommes partis dans une nouvelle perspective qui est celle de la résurrection. En fait, le Christ nous appelle à être des ressuscités. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants, nous dit saint Matthieu. Dieu donne la vie, il la conserve en totalité, âme et corps. Mais la mort est un passage. Et Dieu domine la mort. Ce n'est pas le dernier mot, mais depuis l'origine, Dieu avait promis à Adam et à Ève sa vie divine et leur propre bonheur. Notre corps sera élevé dans la gloire de Dieu. Ce n'est pas un retour à une condition terrestre, mais une nouvelle condition. C'est radicalement nouveau, cette résurrection. Elle n'est pas totalement accessible à notre intelligence, néanmoins, c'est bon de l'éclairer. Dans le cadre de cette résurrection, nous participerons corps et âme à la nature divine, à l'éternel échange d'amour entre le Père et le Fils et dans l'Esprit. En raison de l'intimité avec la communion trinitaire des personnes divines, dans le face-à-face de la vision béatifique, notre corps sera uni à notre âme dans une totale unité de la personne. Or, nous savons que aujourd'hui, tel que nous sommes, il y a parfois des conflits entre le corps et l'âme. Néanmoins, à la résurrection, il y aura une harmonie définitive en Dieu. Nous serons totalement unis à Dieu. La résurrection est une divinisation de la personne humaine. Dieu sera tout en tous. Nous ne serons pas Dieu, mais nous participerons à la vie divine. Une fois ressuscités, nous serons en situation de réaliser non seulement une image de la communion divine entre le Père, le Fils et l'Esprit, mais nous réaliserons totalement la communion divine en nous, et donc totalement la signification sponsale dont on avait parlé un petit peu précédemment de notre propre corps. C'est un grand mystère que cette résurrection, qui est préfigurée aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons, par l'échange d'amour de l'homme et de la femme unis en une seule chair. La résurrection des corps est ce en quoi nous sommes tous appelés. Le christianisme, en tant que tel, ne professe pas l'immortalité de l'âme. Le philosophe peut très bien s'efforcer de décrire cette immortalité de l'âme. Le christianisme va beaucoup plus loin. La spécificité de ce christianisme, c'est d'affirmer la vérité de la résurrection des corps. Nous sommes tous faits pour ressusciter corps et âme. Notre corps, tel que nous pouvons déjà le ressentir, le vivre, est un don. Il hurle le don dans la féminité, dans la masculinité, et dans un don réciproque de l'homme et de la femme. Ce corps signifie le don, ce don sponsal. Ainsi, cette réalité signifie le véritable et définitif accomplissement de la subjectivité humaine et sur cette base, l'accomplissement définitif de la signification du corps et de l'âme. Entre la masculinité et la féminité, le rôle du mariage est simplement de nous préparer. Quand je dis simplement, c'est extrêmement riche, mais de nous préparer à cette résurrection. Et celui de la virginité pour le royaume, de l'annoncer de manière prophétique. Les deux vocations se complètent l'une l'autre. La résurrection des corps sera l'accomplissement définitif de la signification sponsale du corps. Dans Matthieu 22, l'histoire de Jésus et des Sadducéens, je vais peut-être rapidement la lire. Ce jour-là, les Sadducéens, gens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogent. « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme, sa belle-sœur suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait chez nous 7 frères. Le premier se maria, puis mourut sans postérité, laissant sa femme et son frère. Pareillement, le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, jusqu'au 7e. Finalement, après eux, tous, la femme mourut à son tour. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme ? Car tous l'auront eu. » Jésus leur répondit : « Vous êtes dans l'erreur, en ne connaissant ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme, ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. » Comme des anges, je reviendrai dessus. Quant à ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu l'oracle dans lequel Dieu vous dit : « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce n'est pas des morts, mais des vivants qu'il est Dieu. Et les foules qui avaient entendu étaient frappées de son enseignement. Il est difficile pour nous de se faire une idée précise de ce qu'est la résurrection, et la résurrection dans un monde futur, car concrètement, nous n'en avons pas d'expérience. Quelques faits, malgré tout, dans l'Évangile permettent de présupposer, d'imaginer la personne du Christ ressuscité. Il est possible de dire ce que la résurrection néanmoins ne sera pas. Il n'est que trop évident que sur la base des expériences et des connaissances de l'homme dans la temporalité, c'est-à-dire dans le monde, il est difficile de construire une image pleinement adéquate du monde futur, dit Jean-Paul II. En même temps, cependant, il n'y a pas de doute qu'à l'aide des paroles du Christ, une certaine approximation au moins de cette image est possible et à notre portée. Exerçons notre intelligence. Nous nous servons de cette approximation théologique en professant notre foi en la résurrection des morts et en la vie éternelle, comme aussi de la foi en la communion des saints qui appartiennent à la réalité du monde futur. La résurrection finale ne sera pas une réanimation. Lazare a connu une réanimation. Il est mort. Non. La résurrection finale ne sera pas une réanimation ni une récupération par l'âme de son corps, mais un état de vie humaine différent de celui que nous connaissons actuellement. La résurrection ne sera pas non plus une forme d'angélisation, comme des anges, mais nous ne serons pas une angélisation ou de spiritualisation totale de l'homme, qui serait une désincarnation et une désappropriation du corps. En ce cas, la résurrection équivaudrait à une décomposition de la nature humaine et elle perdrait cette union entre le corps et l'âme qui nous constitue. Il n'y a plus d'opposition entre le corps et l'esprit. Et ce à quoi nous aspirons tous, c'est cette harmonie entre le corps et l'esprit. C'est une expérience vers laquelle nous voulons avancer, de cette unité de notre propre personne. La résurrection signifie non seulement la récupération de notre corporalité et le rétablissement de la vie humaine dans son intégralité par l'union de l'âme et du corps, mais aussi un état tout à fait nouveau de la vie humaine. Elle sera une nouvelle manière pour l'âme d'animer le corps beaucoup plus parfaite, beaucoup plus accomplie qu'elle ne l'était à l'origine dans l'état d'innocence. Ce n'est pas une domination volontariste de l'âme et du corps, mais une parfaite harmonie, une sereine osmose entre l'esprit et le corps qui nous attend. Nous ne connaîtrons plus cette opposition entre le corps et l'esprit. C'est une expérience complètement nouvelle à laquelle nous sommes appelés. La vérité sur la résurrection affirme en effet clairement que la perfection eschatologique, donc du monde du futur, et la béatitude de l'homme ne saurait être comprise comme l'état de l'âme seule, séparée, comme le pensaient les philosophes comme Platon. Il faut l'entendre comme l'état de l'homme définitivement et parfaitement intégré, âme et corps, telle qu'elle est dans son intégrité voulue par Dieu et qu'elle existe et qui est de même nature que celle qui existe entre le Père et le Fils, cette unité. Ici, on pourrait parler là d'une parfaite intégration des forces à l'intérieur de l'homme. J'aperçois dans mes membres, ce que nous vivons, une autre loi qui lutte contre la loi de mon esprit. Nous sommes tous tiraillés. Je fais ce que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas ce que je voudrais faire. L'homme eschatologique sera libéré de cette opposition. Il retrouvera la parfaite unité et l'harmonie dans l'esprit. L'homme n'éprouvera plus l'opposition entre ce qui est en lui, spirituel et corporel. Les deux seront parfaitement dans l'unité. D'où proviendra cette unité de la personne? Elle proviendra de l'unité existante dans la Trinité elle-même, qui est le principe même de la résurrection. Elle sera une autre, et en ce sens, elle sera une authentique divinisation de la personne. L'état de l'homme dans l'autre monde ne sera pas seulement un état de parfaite spiritualisation, mais aussi une divinisation fondamentale de notre humanité voulue par Dieu. Dans la résurrection, c'est l'intimité avec la communion trinitaire des personnes, dans le face-à-face avec la vision béatifique, qui permettra cette totale unité intérieure de la personne, corps et âme. Dans le texte d'aujourd'hui, vous avez Moïse qui ne peut pas regarder le buisson ardent. Dans la résurrection, il n'y aura plus cette incapacité. Il verra. Là, aujourd'hui, il a un voile qui ne permet pas de voir la divinité. Mais cette divinité, il la verra telle que. Il n'y aura plus cette rupture qui existe. Dans le texte d'aujourd'hui, il craignait de porter son regard sur Dieu. Dans la résurrection, nous n'aurons plus cette crainte de regarder Dieu. Pourquoi, nous dit le psaume, car il pardonne tout, il guérit tout, il réclame la vie à la tombe et te couronne surtout d'amour et de tendresse.
Quand Emmanuel parle de non-conflit entre le corps et l'âme, en fait, tout notre corps, enfin, tout ce qui est douleur, non seulement psychologique, mais physique du corps, disparaîtront. Tout sera. Alors, on ne peut pas savoir si on ressuscitera à la fin des temps, à l'âge à laquelle est-ce que j'aurai 30 ans, est-ce que j'aurai l'âge d'aujourd'hui, est-ce que j'aurai 15 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que notre corps glorieux sera totalement paisible, totalement serein. En gros, ça fait rêver, quoi. Et c'est juste un temps où on sera, un temps qui n'en finira plus, une éternité, où on sera sur un transat de bonheur. Vous voyez ce que je veux dire ? On sera dans une relation d'amour permanente, sans souffrir, sans.
Moi, je trouve ça merveilleux. Il n'y aura plus de souffrance, ouais. Il n'y aura plus de mort, et on passera le Christ passe les murs.
Il n'y aura peut-être plus de murs.
Il n'y aura plus de murs, mais moi, je m'arrête deux minutes sur un des moments forts après la résurrection. Le Christ est sur le lac de Tibériade et les apôtres ont pêché toute la nuit sans prendre de poisson. Et là, il voit un homme, puis petit à petit, en s'approchant, il s'aperçoit que c'est le Christ. Il a déjà préparé, je dirais, un repas, le pain est chaud, tout est préparé, etc. Il a déjà apporté, et ils reconnaissent le Christ. Et le Christ nous arrivera, et en fait, quand ils arrivent sur le rivage, les filets sont pleins et donc ils ont partagé le poisson, le pain qui a été cuit par le Christ, etc. Il y a une harmonie et nous sommes tous, il faut pas l'oublier tous les jours, il faut se le répéter, nous sommes tous invités au banquet des noces de l'agneau. Et parfois dans les enterrements, on parle de l'enterrement justement. Mais en fait, on devrait parler de l'anciellement. L'âme va enfin pouvoir avec son corps, pas encore avec son corps dans un premier temps, mais elle pourra être en harmonie avec Dieu, parce que nous sommes tous invités au banquet des noces de l'agneau. Hein, c'est incroyable.
On reviendra après à la fin, mais on est tous, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans cette chapelle, mais aussi tous ceux qui habitent la roche.
Absolument.
Et vous voyez un peu le nombre de gens qui n'ont pas encore connaissance de cette finalité de la vie éternelle. Ça nous appartient de le faire savoir.
Alors, est-ce que lorsque nous ressusciterons, nous conserverons l'identité masculine et féminine ? Eh bien oui, à la résurrection, nous resterons hommes et femmes. À la résurrection des corps. Nos corps porteront des signes de notre masculinité et de la féminité. Lorsque le Christ apparaît à ses apôtres, il apparaît avec ses plaies. Donc, et c'est un signe que nous porterons un certain nombre de choses. Mais est-ce que nous serons handicapés si jamais aujourd'hui un homme est handicapé? Est-ce qu'il portera l'autre jour à la fin de la précédente conférence, il y avait une Isabelle qui était là, qui était handicapée. Est-ce qu'elle ressuscitera avec son corps d'handicapé? Non, elle sera un corps glorieux. Elle traversera les parois. Et tous nous nous rencontrerons et tous nous nous connaîtrons. Je ne suis pas capable de nommer chacune des personnes.
Mais dans l'harmonie divine, je serai capable d'appeler chaque personne par son prénom, par son histoire, parce que nous sommes dans l'harmonie avec Dieu. Et le mariage est une anticipation de cette réalité. Ce n'est pas, je dirais, nous ne sommes pas faits pour être des êtres purement spirituels, nous sommes faits pour manifester de façon concrète le don vis-à-vis des autres et d'anticiper sur cette terre ce don auquel nous serons appelés à vivre pleinement en harmonie, dans les noces de l'agneau. L'union des sexes telle que nous la connaissons sur terre laissera la place à une union infiniment plus grande, qui est l'union à Dieu, extase éternelle, béatitude infinie, qui nous permettra, d'être en harmonie et dans un épanouissement total, qui est parfois quelque peu inimaginable pour notre intelligence, parce que très rapidement, nous ramenons à notre condition d'aujourd'hui. Le face-à-face d'Adam et d'Ève, à l'origine, tout imprégné d'amour, donne une idée simplement de la vision béatifique. L'union charnelle sur terre est une porte entrouverte, merveilleuse, sur cette vision, un avant-goût du festin des noces de l'agneau. C'est justement parce que la sexualité est faite pour nous propulser vers le ciel que le diable va l'attaquer. Il va s'attaquer à cette union de l'homme et de la femme. Unis à Dieu, nous serons en communion avec tous ceux qui ont été appelés dans la gloire de la cité céleste. Et tous nous participerons à cette union charnelle en un seul corps, avec, je dirais, nos frères et en union avec le Père, le Fils et l'Esprit. Nous nous connaisserons tous, nous serons tous connus de tous, c'est incroyable. Dès que vous vous rencontrez, hop, tu me connais. Dieu sera tout en tous, c'est la communion des saints. Cette vocation de la personne humaine au don total de son corps, vocation sponsale du corps, peut être réalisée de façon très concrète aujourd'hui par le mariage, mais aussi d'une certaine façon, par la virginité pour le royaume. La résurrection finale, contemporaine du retour du Christ dans la gloire, sera la fin de l'histoire. Nous sortons là de l'histoire. Plus de nécessité de procréation, plus de nécessité de mariage, c'est-à-dire que nous resterons hommes et femmes. Je reconnaîtrai Marie-Gabrielle, mais je n'aurai plus besoin de cette unité aujourd'hui consacrée dans le mariage pour pouvoir établir une relation avec mon épouse. Je la verrai intégralement. Et elle sera, par contre, identifiée. Mais ce n'est plus une nécessité absolue parce que nous serons tous les deux orientés vers la béatitude de Dieu, vers le bonheur. Et c'est l'union avec Dieu qui nous permettra d'ailleurs de rester unis. Mais unis pas simplement, exclusivement avec son époux ou avec son épouse, mais avec tous les hommes qui seront autour de nous et qui auront avancé et qui ont répondu à l'appel du Christ. Le Christ dit, ils ne prendront ni femme, ni mari, mais il n'affirme pas que l'homme du monde du futur ne sera pas masculin et féminin, comme il l'était depuis l'origine. Il est donc évident que la signification d'être, quant au corps masculin et féminin dans le monde du futur, doit être recherchée en dehors du mariage et de la procréation, mais bien dans cette union avec Dieu le Père, le Fils et l'Esprit, et avec la réalité et la globalité de et l'infini, je dirais, miséricorde et amour de Dieu. La résurrection n'est donc pas une négation de la valeur du mariage, mais au contraire, le plein accomplissement de ce qu'il signifie. Entre l'homme et la femme, malgré tout, nous sommes aujourd'hui des pécheurs, et il y a un certain nombre de difficultés, etc. Dans l'éternité, dans le banquet des noces de l'agneau, tout ça va s'estomper. Je voudrais juste insister sur le fait que il faut creuser cette réalité et se rappeler, c'est pas mauvais de penser à la résurrection, de penser à cette résurrection de la chair, de penser à l'harmonie du corps et de l'âme. Nous le récitons chaque dimanche dans le credo. Si l'Église a mis ça dans le credo et que de chaque dimanche nous rappelons la résurrection de la chair, la communion des saints, c'est que c'est au cœur du mystère auquel nous sommes appelés dans l'union avec Dieu. La finalité de Dieu, c'est de nous avoir en harmonie avec lui et de pouvoir lui donner son amour pour que nous puissions vivre de cet amour. Donc c'est une réalité tout à fait concrète.
C'est tellement... Il est où le manuscrit ? C'est tellement une réalité très concrète, c'est pas uniquement dans le credo, c'est aussi dans les préfaces, hein, dans les prières eucharistiques, on l'entend, le Christ est venu nous restaurer, etc. Parce qu'on avait perdu cette amitié avec Dieu, et donc le Christ, par la résurrection, vient nous redonner ce chemin, enfin je sais pas comment on peut dire, cette espèce d'autoroute, avec le Christ, on peut retrouver le chemin pour aller dans la vie éternelle, retrouver cette communion d'amour que Dieu voulait dès le départ. Et le mariage qu'Emmanuel vient de décrire...
Juste une petite digression là-dessus, c'est que Marie-Belle parle des préfaces et de la prière eucharistique. Je vous invite ultérieurement à relire ces prières eucharistiques et à bien lire les préfaces qui passent très souvent très vite et qui sont des merveilles de l'anticipation du banquet des noces auquel nous sommes invités.
Pas que les préfaces, les prières après la communion. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume. Et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous. Et, c'est-à-dire, en fait, ce sacrement qui vient d'accomplir en nous, c'est-à-dire cet appel que nous avons à nous retrouver avec le Seigneur au moment de la résurrection de la chair. Et le mariage, en fait, Jean-Paul II parle d'une école de communion. Une école, c'est là où on apprend des choses, d'accord ? Et donc, nous apprenons avec Emmanuel, dans notre mariage, nous apprenons chaque jour le chemin de la communion, qui n'est pas que la communion des corps, la communion des cœurs, des corps, de l'âme. Nous cheminons tous les deux vers une communion pour la vie éternelle, en vue de la vie éternelle, la communion finale, d'accord ? Alors, on va voir que, oui, mais vous allez me dire, mais les prêtres dans tout ça. Eh bien, justement, on va en parler. Et on va parler de ceux qui ne sont pas mariés. Est-ce que pour autant, les gens pas mariés ont le droit à la vie éternelle ? C'est une vraie question. Et puisqu'on dit que le mariage... Je fais exprès, j'espère que je vous choque. Mais je fais exprès. Vous allez voir après, on avance doucement. Mais le Christ, en fait, dit bien que... vous allez voir que... Dans cette réflexion qu'Emmanuel nous a donnée, là, à l'instant, en parlant du sacrement du mariage, on voit bien que le sacrement du mariage nous met en route, c'est une école de communion. On apprend cette communion. Mais ça, vous allez voir que finalement, c'est chaque chose que je fais aujourd'hui, à chaque instant, qui me prépare ou pas à cette vie éternelle. Voilà. Donc, le sens de la virginité. Donc, on a vu qu'il y a les mariés et puis le sens de la virginité, ou la continence du au célibat choisi. Célibat choisi, ça c'est tout un poème. Et alors là, c'est bien parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de journalistes à la télévision qui nous aident à réfléchir sur ce sujet, pas de façon forcément très intelligente, mais en tout cas ils ont des avis sur la chose. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse au moins leur permettre de connaître l'avis des chrétiens, parce que finalement ils ont leurs avis mais ils n'ont pas l'avis des chrétiens, voire même ils ne savent même pas ce que Jésus dit sur le sujet. Or Jésus a des choses à dire sur le sujet. Et alors disent les apôtres, mais alors finalement, parce que le Christ à un moment dit la vocation normale en fait de tous est le mariage, puisqu'en fait Dieu a créé l'homme et la femme à son image, communion d'amour homme-femme, pour signifier la fin. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit, mais oui, mais il y en a qui ne se marient pas. Et là Jésus dit, tous ne comprennent pas cette parole, toujours dans Saint Matthieu 19, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils n'en sont pas capables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés ou abîmés par l'homme, et il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne, dit Jésus. C'est Jésus qui le dit, hein, c'est pas... Voilà. Alors, ceux qui ne peuvent pas se marier de naissance, je pense que... Alors ça, c'est mon interprétation et celle de d'autres personnes. C'est, je pense que notre petit loulou au fond de l'église, de la chapelle, qui sourit quand on parle, je ne sais pas s'il pourra se marier. Est-ce raisonnable ? Voilà. Voilà, c'est une vraie question, vous voyez ? Donc, je pense que ça fait partie des catégories. Je ne vais pas plus loin, vous comprenez, hein, à cause de naissance. Et puis, il y en a qui ne se marieront pas à cause des hommes. Alors, je pense qu'on sous-entend, là, des personnes qui ont peut-être été blessées, où la société fait que, ben, ils ne se marient pas. Et on a bien vu que l'homme est fait pour le don totale. Or, on est dans une société aujourd'hui où tout est pour moi. D'accord ? On est dans un individualisme terrible. C'est moi qui est premier, après on voit pour les autres. Alors, c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait un moment que ça traîne. Et donc, on finit par voir que avoir une société où tout est tourné sur soi, moi d'abord, je perds le sens du don et on perd le sens de la fin, de la finalité. Et quand le Christ parle à cause des hommes, c'est-à-dire qu'à cause de notre société, il y a des gens qui ne se marient pas. C'est pas qu'ils sont pas mariables, c'est pas qu'ils sont pas aimables, c'est pas qu'ils sont désagréables, c'est que la société fait que par leur histoire, par leurs blessures, par l'individualisme, par tout ça, eh bien, ils n'ont pas pu se marier. Et le Christ les nomme. Ça veut dire que s'il les nomme, il a un projet pour eux là-haut, intéressant. Donc, et pour les petits loulous, il a un projet aussi puisqu'il les nomme. Ceux qui ne sont pas mariés, il les nomme aussi. Mais là, et puis il arrive après pour ceux qui décident de ne pas se marier. Alors là, c'est pas mal. Le célibat choisi. Alors, vous voyez ce que ça veut dire, c'est les gens qui décident de ne pas se marier en se consacrant. Alors, dans cette catégorie, on a les prêtres, on a les religieux, on a ceux qui font le choix de ne pas se marier. Et le Christ dit, c'est en vue du royaume. Comment le célibat, alors que Dieu veut se... Pour faire court, Dieu veut nous épouser tous, comment le célibat choisi peut dire quelque chose du royaume. C'est intéressant, je trouve. Eh bien, en réalité, et là vraiment, je trouve que Jean-Paul II nous apporte, pour ce qui se passe aujourd'hui, hein, je veux dire aujourd'hui, c'est-à-dire 24 mars 2019, dans notre société, dans notre Église, je trouve qu'il y a un éclairage extrêmement puissant. Et je vais même aller plus loin, ça n'engage que moi. Si cet éclairage avait été connu par différentes communautés que je ne nommerai pas, ces communautés ne seraient pas aujourd'hui dans un chaos et une souffrance terrible. Il n'y aurait pas eu de prêtres qui auraient abusé, et des enfants ou des religieux. Parce qu'ils n'ont pas compris le sens de leur célibat. Il y a le péché, il y a leur fragilité, il y a les drames qu'ils ont vécus, mais si ces drames ont été vécus, s'ils ont agi de façon dans laquelle ils ont agi, c'est que quelque part, ils n'ont absolument pas compris le sens du célibat pour le royaume. Et je pense que c'est une chance de pouvoir retravailler ça, retravailler ce célibat pour le royaume, la continence choisie, le célibat choisi, le célibat, le CETA, la virginité pour le royaume, enfin, toutes ces expressions sont les mêmes, de pouvoir retravailler toute la réflexion de Jean-Paul II là-dessus, parce qu'elle est vraiment très intéressante. Alors on va dire, c'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'était ce qu'on a vu au début, vous vous rappelez, dans la Genèse. Et là, on va mettre des prêtres tout seuls. En réalité, ce célibat pour le royaume révèle que l'accomplissement ultime de cette solitude... Vous vous rappelez l'expérience originelle? On avait parlé de la solitude, d'accord? La solitude, je ne vois personne comme moi. En réalité, il y a dans cette solitude cette capacité à trouver... à trouver le sens de ma relation à Dieu. Dans la Genèse, il y a cette expression de la solitude, Adam qui dit « je ne vois personne comme moi », mais il parle à qui ? Il parle à Dieu. Il est dans une relation totale avec Dieu. Vous vous souvenez de ça ? Eh bien, en fait, le célibat pour le royaume nous montre, si vous voulez, nous révèle que l'accomplissement ultime de cette solitude qu'on voit dans la Genèse ne se trouve que dans l'union à Dieu. Les personnes consacrées anticipent sur terre le mariage céleste. Pour faire court, est-ce que vous pouvez bien venir juste là, Père ? Comme ça, vous allez vite comprendre. Vous, venez là. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Le Père est là. Il anticipe, je répète, hein, parce que c'est quand même important, il anticipe sur terre le mariage céleste. C'est-à-dire... il montre au monde que nous sommes appelés pour le ciel. Et nous, on est l'école de communion. C'est là où on apprend Donc on apprend en famille, on apprend avec ses enfants, on apprend avec ceux qu'on accueille. On apprend dans la famille parce qu'on a beau être célibataire, on est fille d'eux, frère d'eux, enfant d'eux, sœur d'eux ou cousine d'eux. On est quand même membre d'une famille. Et dans cette famille, communion d'amour, cette école de communion d'amour, c'est une école en vue du ciel. En gros, quand nous voyons le Père, on se dit « Ah oui, c'est vrai, ce don des corps, ce don pour la communion, c'est en vue du ciel. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Jusqu'à dans l'intimité conjugale, on ne fait pas n'importe quoi, puisque c'est en vue du ciel. Et le prêtre qui est là, quand il nous voit, il se dit quoi ? Ah mais c'est vrai, c'est dans mon corps que je me donne. Et ça lui rappelle que c'est dans son corps. Et donc Jean-Paul II va jusqu'à dire, ces deux vocations, en fait, non seulement c'est clair, mais se complète. C'est-à-dire que plus le célibat pour le royaume s'approche du mariage, plus ils vont se nourrir l'un l'autre. C'est-à-dire que nous allons recevoir du don total du Père en vue du royaume. Et le Père va recevoir de nous. Et je vais même, vous pouvez voir ça, je vais même dire que ces deux vocations, quand elles s'éclairent l'une l'autre, vous savez ce qui se passe ? Toute l'Église s'élève. Quand ces deux vocations travaillent ensemble, se complètent, se nourrissent, se soutiennent, s'apportent, toute l'Église s'élève. Vous comprenez bien que dans ce schéma, aucun prêtre n'est seul. Sans arrêt, le couple, le mariage, remet en face du Père sa mission, le don total de sa vie, etc. Et inversement, si les couples étaient consolidés, rassurés, complétés, renourris par les prêtres, beaucoup moins de prêtres, de couples exploseraient en vol. D'accord ? Et donc ces deux vocations s'éclairent et se révèlent. Vous deux, vous nous révélez notre vocation de mariés. Et nous vous révélons votre célibat consacré. Vous voyez un peu la force de ces deux vocations qui sont là données et toute l'Église s'élève. Alors, vous voulez dire quoi, madame ? Tout à fait. Alors, vous allez en voir. Bien sûr, alors attention, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, madame. Tous nous sommes appelés pour le royaume. Mais quand le Christ parle de ses vocations, Jean-Paul II va plus loin en parlant de l'éclairage et de la façon dont ces deux vocations se complètent. C'est-à-dire qu'ils disent au monde des choses. Et quand je dis quand ces deux vocations travaillent, c'est toute l'Église qui se lève, c'est toute l'Église qui participe à cette union du Christ et de l'Église. Nous participons tous à cette union du Christ et de l'Église. Ça sera le sujet de notre prochaine intervention. Alors, on ne va pas aller sur les détails de savoir quelle est la vocation qui est la plus haute, la plus forte. En fait, les deux... ont une grandeur différente. Voilà, c'est un peu compliqué la façon dont Jean-Paul II approche ça. On n'a pas trop le temps d'aller dessus. Cette continence ou ce célibat choisi correspond à un appel qui est exceptionnel. Et il ne s'agit pas de quelque chose qui est subi. C'est pour ça que quand nos radios et nos télés nous disent « ce serait bien que les prêtres se marient, ça réglerait tous les problèmes », eh bien, viens donc faire un cours de caté. Puis après, on en reparle, d'accord ? Ils l'ont choisi en vue du royaume. Mais comme ils ne savent pas cette expression, évidemment, je comprends qu'ils n'adhèrent pas à ça. Il faut juste prendre le temps d'en expliquer, d'accord ? Et le mariage correspond à la vocation ordinaire ou normale de tous les hommes et de toutes les femmes selon les plans de Dieu aux origines. La continence est une vocation exceptionnelle qui est donnée à certains, qui signifie la parole du Christ, comprenne qui pourra en vue du royaume. D'accord ? Alors vous allez me dire, oui, mais il y en a qui ne se marient pas. On est d'accord. Mais je sais bien. Il y en a qui ne se marient pas, et le Christ le dit lui-même. Hein, il y en a qui ne se marient pas à cause de naissance, à cause des hommes. Tous, toute personne. Alors il y en a qui disent, je décide de ne pas me marier, mais je ne suis pas religieuse. Ça, c'est possible. Ça, c'est un célibat qui est choisi, qui est décidé. Donc, ça rentre dans la catégorie célibat choisi. D'accord ? Mais ceux qui sont dans l'attente de l'un ou de l'autre de cet appel sont appelés à se donner dès aujourd'hui. C'est-à-dire que la vocation commune de tout homme et de toute femme, c'est le don. Et c'est pas parce que je ne suis pas mariée que je ne suis pas appelée à me donner. C'est pas parce que je ne suis pas célibataire consacrée que je ne suis pas appelée à me donner. La vocation unique de la personne, pour toute personne, même pour notre fils, c'est de se donner. Toute personne est appelée à se donner. Et il y a cette phrase qui est en boucle. Je crois que Jean-Paul II, moi j'ai pas compté, c'est quelqu'un qui a compté pour qui nous disait, plus de 200 fois Jean-Paul II utilise l'expression « L'homme ne se réalise pleinement que par le don sincère de lui-même ». Donc toute personne, voilà, c'est dans ce don de soi-même que la personne s'accomplit et se réalise. Toute personne, le point commun de toute personne, c'est le don de soi-même. Alors vous allez me dire, oui, mais si je ne suis pas mariée, je ne peux pas me donner. Ah ben si, on peut se donner par une action, dans sa famille, par un bénévolat, par un machin. Quand je suis mariée, je suis aussi appelée à me donner par une action, dans ma famille, dans le bénévolat, etc. On est tous appelés à se donner, d'accord ? Et il y a juste deux façons de donner totalement son corps, c'est dans le mariage ou dans le célibat choisi. Mais nous voyons bien des personnes qui viennent vers nous en disant « mais nous avons un célibat non choisi ». C'est une réalité. Non choisi, c'est-à-dire « je subis quelque chose que je ne voudrais pas ». Et là, il y a une part de souffrance, il y a une part de « oui, mais moi, finalement, je vaux moins, moi, je suis moins aimable ». Eh bien, j'ai envie de dire, il y a ta vocation est d'abord de te donner. Et le pape François, dans Amoris Laetitia, a toutes deux pages là-dessus, sur les personnes qui n'ont pas choisi ce célibat, et les fait réfléchir sur la façon dont ils se donnent. Et récemment, Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris, le 2 février, a écrit toute une lettre pour des personnes qui n'ont pas encore décidé ou fait le choix du mariage ou du célibat pour le royaume. Et c'est très clair, parce que lui-même, en fait, est rentré au séminaire très tard. Il est rentré, je crois, un peu avant 40 ans. D'accord ? Et donc, il a vécu longtemps, jusqu'à proche de la quarantaine, ce célibat qui l'inquiétait aussi, quelque part. Donc, il comprend certaines choses des personnes qui sont célibataires ou qui ne sont pas ni dans l'une ni dans l'autre des voies. Et donc, il fait une lettre, une réflexion qui est très intéressante sur « Où te donnes-tu ? » Et récemment, on avait un groupe de personnes célibataires qui étaient avec nous et qui nous disaient « Oui, mais dans les paroisses, nous n'avons pas notre place. » Alors moi, ça m'a beaucoup surprise. Et je leur ai dit « Mais est-ce que parmi vous, il y en a qui font l'accueil ?» Parce que l'accueil, ce n'est pas réservé ni aux consacrés ni aux personnes mariées. Est-ce que parmi vous, il y en a qui font de l'accompagnement de fin de vie, des funérailles, parce que ce n'est pas réservé ni aux mariés ni aux consacrés. Est-ce que parmi vous, il y en a qui font du caté, parce que ce n'est pas réservé ni aux consacrés. Et finalement, en déployant toutes les activités possibles où on pouvait se donner dans la paroisse, ils se sont aperçus que, ah ben oui, c'est vrai, ils auraient pu aller partout. Mais eux, ils attendaient un groupe où on prenait soin d'eux. Voilà. Et en fait, quand on rentre dans l'église, ce que je vois arriver, c'est pas une personne mariée ou un célibataire pour le royaume. Je vois une personne qui est membre de cette communauté chrétienne et qui est invitée à se donner comme chacun. Et donc cette personne devrait se voir de la même manière. Parce qu'on peut pas faire des cadres... on est tous d'abord hommes et femmes, ça c'est la première chose. Et le Christ dit bien, cette unique vocation de la personne, elle est dans le don total. C'est dans ce don de soi, de la personne, qu'on s'accomplit et qu'on se réalise. C'est Vatican II qui le dit. L'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne se réalise que dans le don sincère de lui-même. Sincère, c'est-à-dire sans réserve, sans dissimulation, sans tricherie, sans calcul, sans retour, pur, désintéressé, gratuit, total, absolu. Cet amour sponsal peut prendre deux formes selon l'appel reçu par chacun, mais dans les deux cas, donc le mariage ou le célibat pour le royaume, dans les deux cas, la personne est appelée à se donner totalement à une autre personne, et à une personne humaine
pour le mariage. Et il dit que pour les personnes qui sont ni à droite ni à gauche, enfin, ni dans le mariage ni dans le célibat, eh bien, ils sont appelés eux aussi à se réaliser dans le don total. Notre mission à nous, parents, de notre petit garçon, c'est de veiller à ce qu'il trouve des lieux où il peut se donner pour se réaliser, tout handicapé qu'il est. D'accord ? Et donc, la communauté chrétienne est appelée à permettre à chaque personne de se donner. Un jour, quelqu'un disait à Jean-Paul II, mais comment on pourrait réduire la théologie du corps en un mot ? Il disait, don. On comprend toute la théologie du corps si on a compris le mot don. Tu es un don, l'autre est un don, tu es fait pour te donner. Donc ce qui est à retenir, c'est que nous sommes tous faits pour le don. Et faits pour le don, et nous sommes appelés à le dire. Parce que si la personne ne se réalise pleinement que par le don d'elle-même, il faut permettre autour de nous aux gens de se donner. Et si toute personne est faite pour le royaume, il faut le dire. On ne peut pas se taire. Et moi, je me souviens d'un jeune qui avait découvert ça, qui disait, mais j'avais pas compris qu'en fait, toute ma vie, bon, c'est vrai, j'allais à la messe, je communie, j'aime Jésus, je me confesse, j'adore, je fais l'adoration, tout ça, le chapelet. Mais j'avais pas compris que toute ma vie était en vue de ça. Cette jeune me disait, mais finalement, ça change pas mal de choses dans ma vie. La façon dont je vais choisir mes amis, est-ce qu'ils vont m'aider à grandir ? La façon dont je vais même faire mes études, la façon dont je vais choisir mes activités, est-ce que ça m'aide, m'accompagne pour grandir ? Mon âme, ma vie, en fait, doit être orientée pour que mon âme se prépare à cette union avec le Seigneur au banquet des noces. Voilà. Et j'ai trouvé ça intéressant. Moi, je me suis dit, est-ce que toute ma vie est orientée là-dessus ? Est-ce que j'ai des choses à changer ? Peut-être quand même. Ça m'a un peu posé question. Et dans les lectures que nous avons aujourd'hui, qui nous sont données par l'Église, on voit bien que le jeune Moïse, qui se fait appeler, et donc qui se couvre le visage, Dieu lui dit, « Je suis le Dieu de ton père. » Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Et alors Moïse, évidemment, est un peu surpris. Et Dieu dit à Moïse, parce que Moïse dit, mais qu'est-ce que je dis de toi, etc. Parce qu'il a la mission d'aller voir le Pharaon. Et il dit, je suis qui je suis. Je suis. Alors ça, c'est Dieu qui se dit, je suis. Et en fait, c'est lui qui est le Dieu de toute puissance. Et on voit, et dans la première lecture, et dans l'évangile, le Christ qui dit à un moment, voilà 3 ans que je... Vous savez, c'est l'histoire du figuier qui donne pas de fruits. Et il dit, bon ça va, hein, il commence à plus donner de fruits, on va le couper. Et alors, le jardinier, le vigneron, celui qui est là, c'est-à-dire nous, hein, au passage, d'accord ? On est jardinier, gardien de cette création que Dieu nous donne. Il lui dit, mais maître, laisse-le encore un tout petit peu. Peut-être que cette année, le temps que je bêche pour lui, etc., je vais mettre du fumier, je vais m'en prendre soin, etc., il donnera du fruit à l'avenir. Sinon, après, on verra. Je vais leur donner une dernière chance. Moi, ça m'a vraiment interpellée, cet évangile, et je me dis, mais finalement, toutes ces personnes qui peut-être ne connaissent pas ce pourquoi ils sont là, est-ce qu'ils peuvent donner du fruit ? Et en fait, il m'appartient, moi qui suis jardinière, et vigneronne, et Emmanuel Vigneron est jardinier, il nous appartient de pouvoir dire pour que chacun puisse donner du fruit autour de nous. Mais du fruit en vue de la vie éternelle. C'est-à-dire, comment je peux être attentive à tous ces figuiers qui sont autour de moi pour qu'ils puissent donner du fruit pour le royaume ? Je pense qu'on a une vraie mission qui nous est donnée. Nous devons proclamer que le Christ est ressuscité. Alors, je veux bien que vous attendiez Pâques, mais après Pâques, on n'arrête plus, quoi. On y va. Et il faut le dire, Christ est ressuscité. Alors vous allez dire, on va me prendre pour une hystérique. Mais vous pouvez toujours dire, bonne route, bonne montée vers Pâques, quand vous allez chercher votre baguette de pain. Parce que là, vous dites quelque chose. Et puis au moment où Pâques va arriver... Bonne fête de Pâques, c'est merveilleux quand même, ce Christ qui a ressuscité, ouh, ça met un peu d'espoir dans notre vie quand même, un peu de lumière, un peu de joie. Mais dites-le, vous ne perdez rien à le dire. Vous ne perdez rien à le dire. Vous vous rappelez ce couple de Sainte-Anne-Dorée, on en a parlé la semaine dernière, hein ? Si on ne les avait pas invités, ils ne seraient pas venus. Ben, je crois que, allons-y, lâchons les vannes. Alors, je veux bien qu'on attende le jour de Pâques, parce qu'on est en carême. Mais encore, on peut déjà en carême parler de son cœur qui se prépare à cette grande joie de Pâques. Et de pouvoir transmettre autour de nous cet amour de Jésus qui vient se donner complètement pour restaurer ce que je suis. Et quelle chance nous avons d'avoir cette espérance. Mais on ne peut pas le garder pour nous. Tous les figuiers qui sont autour de nous doivent pouvoir donner du fruit. Sinon, si tu veux.
Oui, je crois que la moisson est devant nous. Quoi. L'unique vocation, pour résumer, l'unique vocation de la personne au don d'elle-même, soit dans le mariage, soit dans le célibat consacré, trouve son modèle dans l'union du Christ et de l'Église. C'est l'épître aux Éphésiens. On verra ça dans le prochain topo. Nous avons ensuite pris conscience du poids du péché, néanmoins, parce que nous sommes pécheurs, et de son fruit qu'est la concupiscence, la domination, qui conduit parfois à instrumentaliser l'autre, à le considérer comme étant sa chose, considérer le mariage comme un moyen d'assouvissement de nos propres égoïsmes, plutôt que comme une voie du don de soi. La résurrection du corps, union totale du corps et de l'âme en Dieu, accueillant Dieu et tout donné en Dieu. Nous avons contemplé en quoi le mariage et le célibat pour le royaume sont les deux vocations qui réalisent la vocation sponsale de notre propre corps. Il nous reste à voir comment faire pour que le mariage, blessé par notre péché, soit un chemin de communion éternelle, au jour le jour, en Dieu. Ce n'est pas possible que par la rédemption opérée par le Christ sur la croix, le Christ, par le don de son Esprit Saint et par la grâce de ses sacrements, reste l'être mort. Il va nous transformer peu à peu pour nous permettre d'aimer comme il aime.
Emmanuel vient de vous dire que nous sommes tous appelés à aller à participer à cette union du Christ et de l'Église. Donc ça sera le propos de notre prochain topo. Tous appelés, ce n'est pas les mariés et les consacrés. Tous appelés à permettre à l'Église d'épouser le Christ. À chaque fois que je me donne, on va retravailler ça la prochaine fois, quel que soit ton état de vie, tu es appelé à permettre à l'Église d'épouser le Christ, à se recevoir en l'autre.
Et la fois dernière, je le disais à propos de la place Napoléon, quand je suis arrivé tout à l'heure, il y avait deux femmes qui étaient là et qui étaient avec leurs valises, etc. Et à regarder leur visage, je voyais la souffrance de ces femmes. Je ne sais pas quelle est leur vie. Et je suis passé à côté d'elles. Je n'ai pas fait ce que Marie-Gouëlle a fait, peut-être par erreur, leur annoncer directement l'Évangile. Mais j'ai prié pour elles. Et je pense que dans la vie, dans la vie quotidienne dans laquelle nous vivons, nos frères et sœurs que nous rencontrons, les prêtres, les mariés, les célibataires, les handicapés, etc., ayons des gueules de ressuscité. Ayons des gueules de ressuscité. Et ayons des gueules de ressuscité pour les inviter au banquet des noces de l'agneau, à cette résurrection du corps et de l'âme. Le Christ est venu sur cette terre uniquement pour ça. Et il n'est pas venu pour la globalité, il est venu pour chacun. Quand il va donner sa vie, lorsqu'il va ressusciter, imaginez l'aspect divin, infini, c'est qu'il s'est donné complètement pour chacun d'entre nous. Dans la vie conjugale, on se donne à une épouse ou à un époux. Là, c'est pour chacun d'entre nous. Le célibataire, le consacré, le marié, etc. Imaginez qu'il s'est offert pour chacun d'entre nous individuellement. Voilà.
Et on dansera ensemble.
Et on dansera tous ensemble dans les noces éternelles. C'est incroyable. Je crois qu'il faut qu'on
tout de suite, vous souriez. Je sens que ça vous fait du bien d'entendre ça.
Mais attendez, c'est, C'est pour ça que quand on voit la morosité extérieure, c'est aucune importance. Il est ressuscité. Et il est ressuscité en prenant notre condition d'homme, chacun, quelle que soit son histoire, quelle que soit sa faiblesse, quelle que soit... Encore faut-il se nourrir à nous qui avons eu la chance de pouvoir quelque peu rencontrer le Christ, avoir découvert le Christ, que nous ayons des gueules de ressuscité et que nous nous nourrissions, ça c'était aussi dans les Écritures d'aujourd'hui, spirituellement. Nourrissons. Ne restons pas des nouveau-nés, etc. Soyons des hommes debout, un peu comme saint Paul qui... Voilà. Hein.
Et puisque nous sommes tous faits pour le don, le seul moyen, l'unique moyen de cheminer vers le don, c'est d'accueillir le don du Christ, totalement fait, donné pour nous, et en accueillant le Christ qui se donne pour nous, comme dit Emmanuel, pour moi, pour Marie-Gabrielle, et bien en accueillant le don total du Christ, alors je peux retrouver le chemin du don pour
donc,
la vie éternelle.
Donc dans cette période qui nous sépare de Pâques, moi je vous invite à relire les préfaces, à relire les prières eucharistiques, à bien méditer cette richesse que l'Église nous donne, parce qu'elle n'est pas loin, elle est sur nos magnificats, prions en Église, etc. Elle est disponible, elle est accessible, elle est sur Internet, etc. Pour pouvoir nous habiter de cette invitation, je dirais, à participer aux noces de l'agneau. Et pour résumer, peut-être simplement, je le relis, Éphésiens 5, 22-23, l'unique, Marbelle l'a dit à plusieurs reprises, l'unique vocation de la personne au don d'elle-même, soit dans le mariage, soit dans le célibat, trouve son modèle dans l'union sponsale du Christ et de l'Église, exprimée dans l'Église dans l'Épître aux Éphésiens. C'est ça, ce à quoi nous sommes appelés. Et nous sommes appelés, en tant que ressuscités, nous vivrons dans l'éternité. Nous sortirons de l'histoire. Imaginez un petit peu notre histoire. Hein. 20 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans. Là, c'est l'éternité. C'est rien ce qu'on fait. C'est aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est une parcelle. C'est pour l'éternité.
Et alors, avant d'avancer sur, d'aborder cette épousaille entre le Christ et l'Église à laquelle nous participons tous, eh bien, il va y avoir une petite parenthèse sur la fragilité que vous aurez la semaine prochaine. Mieux connaître la fragilité. Alors, ça peut être la vôtre, mais aussi celle des autres. Et connaître la fragilité... découvrir le sens de cette fragilité, eh bien, ça peut nous mettre en route sur le chemin du don, sur le moyen de se donner, d'accueillir et de donner. Comment j'accueille cette fragilité ? Parce que vous savez que la belle chose, c'est que quand j'accueille ma fragilité, je permets à l'autre de se donner. Tout à l'heure, je n'arrivais pas à porter le pupitre, et tout de suite, monsieur, qui est très costaud, est venu prendre le pupitre. Donc, ma fragilité a permis à monsieur de se donner dans sa force. Donc, la force et la fragilité sont deux choses qui se nourrissent l'une l'autre. Et donc, quand on accueille sa fragilité, donc c'est intéressant, la prochaine fois, dimanche prochain, vous aurez une réflexion avec Jean-Philippe Guillaumont et un médecin qui viendra, et vous aurez une réflexion sur, justement, cette fragilité, et qui est un lieu d'accueil et de don. Et voilà. Et après, on pourra voir et cheminer vers cette union merveilleuse du Christ et de l'Église. Amen. Oui. Tac.